deux invités, un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Alors, on commence par vous. Présentez-vous.
Je suis Guylaine Marcilly. Je suis géologue de profession. J'ai enseigné les sciences de la nature, de l'eau et de la terre à l'Université Pierre et Marie Curie. Et je suis aussi maintenant membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et de l'Académie d'agriculture de France.
Même question, qui êtes-vous ?
Je suis Éric Orsenna, je suis économiste de formation, je suis écrivain, je suis voyageur, je suis depuis toujours passionné par les matières premières et donc par la première des matières premières dont nous sommes faits, l'eau.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti.
De l'eau, il y en a pas mal sur la planète. Elle est très inégalement répartie suivant les pays ou les continents. Et comme la démographie augmente, nous allons bientôt être 9 milliards, il y a des endroits où on manquera énormément d'eau. Donc le problème, c'est est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? Est-ce qu'on va partager l'eau que nous avons globalement entre les différents habitants de la planète ?
Mais on a une obligation de résultat, puisque si on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Et il y a donc le partage, il y a aussi l'économie. Et puis, il y a aussi un peu de production d'eau. Par exemple, il y a une possibilité de dessaler l'eau de mer. À ce moment-là, on a l'eau douce. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié dans ce titre, mais on va en parler dans notre débat, c'est l'assainissement. Ce n'est pas seulement l'eau, c'est l'assainissement. Les deux vont ensemble.
Il faut savoir que 95 à 98% de l'eau dont nous avons besoin pour vivre sert à nous nourrir. Donc pas assez d'eau, en fait, ça se traduit, est-ce qu'il y a assez d'eau pour produire la nourriture dont aura besoin l'humanité pour vivre quand nous serons, par exemple, 9 milliards d'habitants sur Terre ?
Il y a la question de la quantité d'eau pour se nourrir, il y a la question de la répartition, et il y a aussi la question de la répartition des êtres humains. Parce que les êtres humains, maintenant, ils sont en ville. Donc il y a besoin d'avoir de l'eau et de l'assainissement en ville, ce qui, évidemment, change tout. Donc il y a la question de l'agriculture, et il y a la question des villes.
J'ai envie de commencer par la question des villes parce qu'il y a un article très intéressant qui est paru il y a environ un mois et demi dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines qui s'interrogeait où seront les grandes villes du monde en 2050. Et ils ont regardé la distribution des villes de plus d'un million d'habitants. Il faut savoir qu'actuellement nous sommes environ 50% de la population est urbaine et le reste est rural et qu'en 2050 nous serons 70% d'urbains, c'est ce qui a été dit. Alors où seront ces grandes villes de plus d'un million d'habitants ? Évidemment elles sont réparties principalement dans les pays actuellement émergents ou en voie de développement et elles vont parfois dépasser 5 millions d'habitants. L'article s'interroge sur est-ce qu'il y a assez d'eau localement pour satisfaire les besoins en eau de ces villes énormes qui vont se créer. Et la réponse est mitigée. Des endroits, il n'y a pas de problème, mais beaucoup des villes dans les pays en développement vont se trouver avoir des problèmes de manque d'eau, soit saisonnier, c'est-à-dire que pendant quelques périodes de l'année, on n'aura pas assez d'eau pour satisfaire les besoins en eau de tout le monde, et d'autres villes auront jusqu'à un déficit permanent en eau, et ils ont regardé ça en se fixant une distance de 100 km autour de la ville pour voir toute l'eau qu'on pourrait prendre. Ça veut dire qu'en 2050, le problème de l'eau sera quand même extrêmement préoccupant pour de très grandes villes, sachant par ailleurs que, malheureusement, ces très grandes villes seront beaucoup de bidonvilles. Actuellement, l'urbanisation ne se fait pas de façon ordonnée avec des bâtiments construits pour recevoir les gens qui arrivent, mais les gens arrivent et on essaye de faire face plus ou moins bien mal à ceux qui viennent. Et en particulier, comme ça a été dit, il faut non seulement fournir de l'eau, mais il faut mettre en place des moyens d'assainissement pour évacuer les eaux usées et tous les miasmes qui vont avec et qui font que la santé peut être très perturbée si on n'a pas construit tous ces réseaux. Donc il y a un énorme travail à faire.
Je me souviens quand, pour mon livre, j'étais à Calcutta. Donc je voyais la misère de Calcutta. Et je rencontre l'adjoint au maire à Calcutta, chargé de ces questions. Il me dit, puisque vous allez au Bangladesh juste après, vous dites aux gens du Bangladesh qu'on ne peut plus en recevoir. Il y a trop de gens déjà chez nous qui sont dans une grande misère. Donc, puisque vous allez les voir, vous leur dites, on n'en peut plus. Donc, très bien, j'avais la mission, j'ai été à Dhaka, la capitale du Bangladesh, et j'ai vu le ministre, et je lui ai dit, vous savez, à Calcutta, ils ne veulent plus de vous. Alors, ils m'ont dit, ben, vous direz à vos amis indiens la chose suivante. Ils ont construit un barrage sur le Gange, juste avant notre frontière à nous. Résultat du barrage, il y a moins de débit d'eau du Gange qui vient chez nous, donc plus de sable dans nos rizières, premièrement. Et deuxièmement, comme le débit est plus faible, il y a une moindre résistance à la montée des eaux salées qui viennent du golfe du Bengale. Donc, il y a plus de sable dans nos rizières, plus de sel dans nos rizières, donc moins de riz. Donc, les gens, nos paysans, ils viennent où ? Ben, ils viennent dans notre ville. Et après, ils viennent où ? Ben, forcément, comme ils crèvent de faim, ils vont à Calcutta. Et c'est l'exemple même de la question qui ne se posait pas trop quand il y avait uniquement des paysans un peu répartis. Mais là, quand vous avez 10-12 millions d'habitants d'un côté et 12 ou 13 millions de l'autre côté qui s'affrontent pour une seule source d'eau, le Gange, avec en plus le Brahmapoutre. Et on imagine ce qui se passera si les projets chinois de construire d'autres barrages en amont, juste à la descente du Tibet, du plateau tibétain sur le Brahmapoutre, si ces projets sont réalisés. Donc, il y a des endroits du monde où il va y avoir des tensions extrêmement fortes et on peut parler du bassin du Nil, où dans une vingtaine d'années, il y aura 350 millions d'habitants qui se partageront une seule ressource, le Nil. Mais on voit à quel point c'est local, parce que c'est pas global. Moi, je me souviens quand j'ai écrit mon livre sur l'eau, on m'a dit « Ah, alors, j'imagine que vous êtes favorable à une organisation des Nations Unies de l'eau, globale. » Mais ça ne servira à rien, parce que ce sont des questions par bassin. Et on le voit bien chez nous en France, où ce sont les agences de bassin qui règlent les questions. Et les questions de la Garonne et de la Dour n'ont rien à voir avec les questions de la Loire. Donc on voit à quel point les questions d'eau sont toujours des questions qui apportent une sorte de revanche de la géographie.
Je pense qu'il faut voir que la répartition de la ressource en eau sur la planète est très liée aux montagnes. En fait, les montagnes, les grandes montagnes, que ce soit les Alpes ici en Europe ou l'Himalaya, on en a parlé pour l'Inde et la Chine ou le Pakistan, c'est là que se concentre l'essentiel des ressources en eau. Et donc, cette eau arrive par les fleuves jusqu'aux peuples qui vivent dans les basses plaines. Et finalement, c'est ces lieux-là qui vont être les points de conflit majeurs, parce que c'est là que partent les eaux. Alors, si on revient un peu sur la France... nous avons un vrai château d'eau qui sont les Alpes. Et les Alpes alimentent, par la fusion des glaces en particulier, alimentent des débits très importants de la rivière, du Rhône, en été. La France de l'Est ne manquera jamais d'eau. On a ce réservoir devant nous qui nous alimente totalement. Dans la France de l'Ouest, sud-ouest, les Pyrénées sont beaucoup plus basses. Donc c'est un tout petit château d'eau qui n'arrive pas à maintenir des glaces pendant toute l'année, donc il n'y a pas de fusion importante au creux de l'été. Et il est probable que nous devrons, en France, aller demander aux Alpes d'alimenter une partie du territoire, hein, en dehors du bassin versant. Ça a déjà été proposé, puisqu'on a dit qu'on va emmener de l'eau du Rhône jusqu'à Barcelone. Hein. C'était un projet que je trouvais intéressant. Hein. Barcelone manque énormément d'eau, donc ça ne s'est pas fait pour des raisons économiques et des raisons politiques, mais disons que...
Pour des raisons politiques, parce qu'on imagine que les producteurs de légumes ou les producteurs de fruits de la région de Marseille, qui voyaient que leur eau était piquée au profit de leur concurrent principal catalan, on imagine leur fureur. Que la vision de l'Europe, elle est gentille, mais enfin, quand on est à donner des armes à ses concurrents, l'Europe, on l'oublie, évidemment.
Je pense qu'on sera amené, avec le changement climatique en particulier, qui risque de raréfier, au moins en été, la ressource en eau en France, de faire des aménagements assez importants pour transférer des eaux à des licences plus importantes que nous ne l'avons fait jusqu'ici.
Donc on va revoir les grands aqueducs comme le pont du Gard, des choses comme ça. Les Romains nous ont, au fond, montré la voie.
Oui.
La voie d'eau.
Il y a une nouvelle technologie qui a été inventée par des Français, qui est intéressante, qui est de construire des aqueducs sous-marins. Et le projet, par exemple, du Rhône à Barcelone, il était prévu à terre. Maintenant, si on devait y réfléchir, les questions politiques qui ont été dites font qu'on n'y réfléchira pas de si tôt, il y a une possibilité qui est de poser sur le fond de la mer d'énormes tuyaux de pompiers en toile, hein, perméabilisés, bien sûr, qui permettent à l'eau d'être séparée de l'eau-mer et de se transférer avec très peu de perte de charge. Donc on peut, par des travaux très simples, en fait, une société française qui a inventé ça, transférer de l'eau d'assez grandes distances. Ces gens-là parlaient même d'amener de l'eau en Afrique du Nord. À partir
Mais j'avais vu aussi un projet. Les Israéliens, qui évidemment manquent énormément d'eau, c'est pour ça qu'ils en piquent tant à la Palestine, et alors ils négociaient avec les Turcs pour l'achat d'une rivière complète. Donc il y avait une rivière, à l'embouchure de la rivière on mettait le grand tuyau dont vous parlez, ça passait entre Chypre et la côte, et puis ça arrivait à Haïfa. Et puis comme la Turquie, qui est le château d'eau du Proche-Orient, il faut savoir, c'est le château d'eau de tout cet endroit du monde, donc ils tiennent, pas seulement parce qu'ils ont beaucoup de pétrole, mais ils tiennent aussi à cause de l'eau. Ça ne s'est pas fait parce que là, c'était un casus belli dans toutes les régions et que la Turquie voulait se développer touristiquement dans cette région-là. Enfin, c'est intéressant. Il y a beaucoup plus de souplesse qu'on ne croit, à condition de s'entendre.
En fait, je crois que le vrai problème, c'est que les gens ne sont pas assez exigeants, ils ne demandent pas assez, ils sont habitués et se satisfont d'une mauvaise condition de disponibilité en eau et n'exigent pas des pouvoirs publics qu'ils prennent la question de l'eau à bras-le-corps, comme ça a été dit, et la résolvent. Les gens sont fatalistes devant le manque d'eau, ce qui est, je crois, la cause de ces problèmes.
L'eau, c'est vraiment l'obligation de résultat. C'est vraiment le premier résultat, la première obligation. Il faut que les êtres humains aient de l'eau et de l'assainissement. Autrement, il n'y a pas de dignité possible, il y a des terribles maladies. Et puis, évidemment, on ne peut pas se développer économiquement. Alors, la Banque mondiale s'est enfin rendu compte que un dollar investi dans l'eau, c'était sans doute le dollar le plus efficace. Alors, moi, c'est sur l'eau égale conflit. Alors, on peut imaginer les grands conflits planétaires, on peut imaginer des tas de choses. Mais regardez l'exemple d'un petit conflit. D'abord, un petit conflit local. Il se trouve que pendant la période que nous avons vécue, le mois de juin 2011, il y a eu une sécheresse et que donc la moitié des départements français ont eu des restrictions d'utilisation d'eau. Et il se trouve qu'une bonne partie de l'eau qu'utilisent les Parisiens, une bonne partie de cette eau est captée en Seine-et-Marne, lequel département est un département très agricole et dans lequel il y avait des restrictions d'eau. Alors les gens de Seine-et-Marne ont dit aux responsables des eaux de Paris, arrêtez de piquer de l'eau chez nous et réhabilitez vos usines qui traitent l'eau de la Seine chez vous. Et arrêtez. C'est l'exemple même du conflit. Et alors, première bataille. Et deuxième bataille, évidemment, c'est les conflits d'usage aussi vieux que le monde entre les agriculteurs, entre les producteurs et les industriels, entre les gens du tourisme, évidemment. Parce que si les agriculteurs pompent dans une mare, que la mare voit son niveau diminuer, et que vous avez les agriculteurs qui en même temps font du tourisme, et que les canoës raclent le fond, évidemment ils ne reviendront pas dans la chambre d'hôte l'année d'après. Donc vous voyez, il y a tous ces conflits extrêmement concrets qui sont au fond aussi vieux que le monde. Et ce qui me passionne dans l'eau, moi, c'est que c'est à la fois des tas de questions techniques, mais c'est aussi, une sorte de miroir des sociétés. Dis-moi comment j'évite les conflits, comment je traite les conflits, comment je partage cette richesse évidemment essentielle, et je te dirai à quel type de société tu appartiens. Donc l'eau est non seulement une nécessité, mais le miroir de nos sociétés.
Moi, j'ai en tête les problèmes de frontières entre le Pakistan et l'Inde. Pakistan et l'Inde, ils ont à gérer les flux qui viennent de l'Indus, hein, de l'autre côté de l'Himalaya. Et ils se partagent, c'est tout. Le Pakistan et l'Inde sont plutôt à la veille de se faire la guerre à cause du Cachemire. Et ils ont chacun développé des bombes atomiques pour se les envoyer les uns sur les autres. Ce qui m'a frappé, c'est que malgré ça, ils ont eu la sagesse chaque année, parmi les tensions les plus fortes, de se réunir autour de la table et de décider du programme de gestion des barrages sur l'Indus. Donc, quand nécessité fait loi, les sociétés, au moins aussi développées que celles de l'Inde et du Pakistan, qui ont une habitude de la palabre et de la discussion plus longue que la nôtre peut-être, eh bien, ils se sont réunis quand même pour essayer de régler ces problèmes. Moi, j'ai l'espoir que les sociétés humaines, devant les difficultés de se répartir cette ressource quand elle devient rare, arrive à s'asseoir à la table de négociation plutôt que d'aller se battre.
C'est très frappant. Je me suis fait la même remarque en disant qu'il y a une sorte de sagesse de l'eau, Parce que c'est tellement essentiel qu'on sait que pour avoir de l'eau, on est prêt à tout, parce que si on n'a pas d'eau, on meurt. Et il y a au fond une sorte d'équilibre de la dissuasion qu'il y a dans le domaine du nucléaire. Au fond, il n'y a pas eu encore, espérons, de guerre nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand on allume le feu nucléaire, on est sûr de ne pas l'arrêter. On ne sait pas comment, jusqu'où ça peut aller. Et donc, avec l'eau, c'est pareil. Il y a une sorte de retenue. On sait que tout le monde en a besoin. Et donc, on a une obligation de partage. Ça, c'est les partages entre populations. Mais c'est aussi entre secteurs. Et la question posée, évidemment, les besoins en eau de l'agriculture, et aussi, d'une certaine manière, en termes de génération. Regardez, quand vous êtes un maire d'une ville qui a des problèmes d'eau, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'avoir une nouvelle usine de production d'eau, dont vous aurez tous les journalistes qui seront ravis parce que c'est parfait, il y a une nouvelle usine. Et l'autre solution, c'est de dire, on va faire des travaux pour réhabiliter tous les réseaux, toutes les canalisations un peu partout, qui peuvent entraîner des fuites énormes. Mais quand vous faites les réseaux, vous n'avez aucun journaliste qui vient à l'inauguration des travaux, et en plus, les travaux embêtent tout le monde autant que les travaux du tramway. Donc, il faut être quand même un élu très attaché à l'intérêt général pour préférer ce qui ne se voit pas et qui est valable à très long terme, plutôt que ce qui se voit et qui n'est valable, au fond, qu'à très court terme. Ce qui pose une question très intéressante, des relations entre le développement durable et la démocratie. Et il faut bien faire attention que la démocratie ne prenne pas en otage le long terme et ne se préoccupe pas, ne se focalise pas, en plus tendue par les obligations médiatiques, uniquement par le court terme. Et l'eau... L'eau, c'est évidemment l'obligation à court terme, on ouvre le robinet à avoir de l'eau, mais c'est aussi à long terme.
Moi, ce qui m'inquiète un peu plus dans les problèmes de conflit d'eau liés à l'eau, c'est les périodes véritablement de pénurie extrême. Quand il y a sécheresse absolue, famine, et que les gens n'ont plus rien à manger, là, il n'y a plus rien qui arrête personne. Ça s'est produit en Inde, au 19e siècle en particulier, ça s'est produit en Chine. Ça s'est produit en Éthiopie. Et si demain, on arrive au point où le manque d'eau se traduit par des famines, des émeutes de la faim, là j'ai très peur. Non pas de conflit au sens que un pays va se battre contre l'eau, mais les gens vont se battre entre eux. Hein, des véritables émeutes de la faim se terminant par des massacres. Et la solution, à mon avis, la chose qu'il faudrait mieux faire que nous ne le faisons aujourd'hui, c'est de savoir que ces épisodes de sécheresse extrêmement graves peuvent se produire simultanément sur plusieurs continents. Ceux dont je parle au XIXe siècle ont frappé l'Éthiopie, l'Inde, la Chine, le Brésil, la même année. Il n'y avait plus rien à manger. Les gens sont morts de faim, 30 millions de personnes à chaque fois, en 1876-1896. La seule façon de se protéger contre de tels épisodes de famine, c'est d'avoir constitué des stocks. Or, nous avions, il y a encore 10 ans, à peu près 10 à 12 mois de stock de céréales à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 2 mois. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que si demain... Ce n'est pas le petit épisode de sécheresse de la France en juin 2011 qui est inquiétant parce qu'il est localisé sur la France. Mais si vous avez de grandes sécheresses généralisées, nous pourrions très bien avoir une planète qui n'aurait plus de quoi se nourrir. Et là, les conséquences de conflits, mais alors les conflits vraiment des gens affamés, entre eux, peuvent être dramatiques.
Je partage vraiment la même inquiétude que vous. La question agricole n'est absolument pas réglée. Et question agricole, c'est évidemment en même temps la question de l'eau. Et c'est très frappant de voir à quel point, dans le budget des pays en développement, même des pays émergents, le soutien à l'agriculture est aussi faible que le soutien aux politiques de l'eau. Et évidemment, on récolte, si je puis dire, ce qu'on a semé, c'est-à-dire une indifférence. Et donc, les émeutes de la faim, elles sont quasiment inscrites. Pourquoi il y a des telles volatilités dans les cours des produits, notamment des céréales ? Pourquoi ? Parce qu'on est à l'extrême limite entre l'offre et la demande. on n'a pas de stock, ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il y a un petit déséquilibre, par exemple, climatique, quand il y a là une sécheresse, là une inondation, brutalement, il y a une sorte d'écart qui se pose entre la demande toujours forte et croissante et puis la production qui ne peut pas suffire. Donc, c'est que, évidemment, ça peut exploser. Donc, vraiment, l'attention à ce duo indissociable de l'agriculture et de l'eau est absolument clé. Mais il y a une autre question du conflit, parce qu'il y a des tas de gens qui sont spécialistes des faux conflits, et notamment à la télévision. C'est-à-dire, ils adorent être dans la catastrophe. Ils adorent, par exemple, dire que l'eau en France au robinet est une eau qui entraîne des poisons. Alors qu'évidemment, c'est faux. Mais évidemment, quand on est dans le catastrophisme, on fait des meilleures audiences que quand on est plus mesuré. Et ça, c'est absolument irresponsable. Il faut évidemment dire ce qui se passe. Il faut évidemment dire que dans l'eau, il y a des nouvelles molécules, il y a des résidus médicamenteux, que, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors qu'il y a des nouvelles pollutions, mais il y a des progrès énormes aussi dans la mesure de ce qu'on connaît. Donc il y a une sorte de course entre des progrès dans la mesure et des progrès dans le traitement. Donc il faut aussi garder raison. Et quand je vois... Écoutez, je viens de Dunkerque. À Dunkerque, je vois que seulement 45% des habitants utilisent pour boire l'eau du robinet. Et le reste, c'est de l'eau en bouteille. D'abord, c'est cher. Ensuite, c'est évidemment pas bon pour l'environnement, le transport, le plastique, tout ce qu'on peut imaginer. Et vraiment, mais d'où vient cette crainte de l'eau du robinet qui, en France, est bonne ?
Alors, il n'y a aucun problème. La qualité de l'eau du robinet en France est tout à fait parfaite. Je me permettrai une petite, disons, particularité. J'aime bien les eaux minérales. J'aime bien les eaux minérales parce que je trouve que, comme le vin, hein, une eau d'Évian, une eau de Volvic, une eau de Vittel, ça n'a rien à voir. Et quand je prends un repas où je me sors de ma poche de quoi payer une bonne bouteille de Bordeaux, ben j'aime bien choisir aussi une bonne bouteille d'eau. Mais ce n'est pas une question de poison santé. Ou de qualité.
C'est pas une question de santé, c'est une question de plaisir.
De plaisir.
Donc vivre le plaisir, mais il faut pas prendre... Si, vous êtes d'accord avec moi, on dirait que si on prend la question du plaisir pour une question de santé, vous diminuez votre taux de plaisir.
Absolument.
L'eau, c'est de la géographie. Et quand on dit le réchauffement climatique, on me dit souvent, avec le réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de problèmes d'eau. La quantité d'eau, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais la quantité d'eau sera toujours la même, avec l'évaporation, avec le transport des nuages, avec les ruissellements, etc. Ça sera globalement un peu la même chose toujours, la même quantité. Simplement, ce qui est intéressant avec le réchauffement, c'est que les phénomènes extrêmes auront tendance à se multiplier, c'est-à-dire à la fois des sécheresses et puis des inondations, premièrement. Et deuxièmement, une sorte d'inégalité climatique où les régions qui ont déjà beaucoup d'eau en auront encore plus, le Canada, la Scandinavie, certaines régions de l'Asie, et celles qui en avaient déjà peu en auront encore moins. Et par exemple, la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée. Donc ça, ce sont des questions qui montrent bien que déjà l'eau, c'est un phénomène local. Et plus il y aura du réchauffement, plus la dimension locale sera importante. Et que raisonner globalement fait manquer la cible.
Je voudrais, sur ce problème local, amener un élément sur la nourriture de nouveau, puisque j'ai dit au début que nous avions 95% de l'eau qui sert à nous nourrir. Nous parlions de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord vit, si je puis dire, à 30% au-dessus de ses moyens en matière d'eau. Un pays comme la Tunisie, si on met bout à bout tout ce qu'elle consomme en matière d'eau, n'arrive pas à boucler son bilan. Elle est déjà à 30% là. Et comment elle fait pour boucler son bilan? Parce que les Tunisiens vivent et ils vivent bien. Eh bien, ils importent ce qu'on appelle de l'eau virtuelle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, l'eau, c'est la nourriture. Donc, si vous achetez sur les marchés internationaux du blé ou de l'orge, c'est ce que font les Tunisiens, eh bien, vous faites venir dans le pays, sans l'avoir vraiment transporté, vous faites venir de l'eau qu'on appelle virtuelle. C'est beaucoup plus efficace de transporter de l'eau de cette façon-là que d'acheter des bateaux d'eau qui viendraient pour faire pousser du blé en irriguant du blé en Tunisie. Il faut 1000 kilos d'eau pour faire pousser 1 kilo de blé. Donc il faudrait 1000 fois plus de bateaux pour transporter de l'eau que de transporter du blé, donc on ne le fait pas. Alors ceci, désolidarise un peu le problème de l'eau, de son caractère local. S'il s'agit de l'eau agricole, c'est-à-dire de l'eau qui fait la nourriture, on peut vivre dans un pays aride et quand même vivre bien dans la mesure où il existe sur le marché mondial des pays bien dotés en eau et où on peut faire pousser du blé, du maïs et de l'orge et le vendre et l'importer dans les pays qui en ont besoin. Donc pour ce qui est de l'eau agricole, je pense qu'il faut effectivement regarder le problème à l'échelle mondiale. Ça ne sert à rien de le vouloir le régler à l'échelle locale. Et bien sûr, tout gouvernant va souhaiter être autonome, d'avoir l'auto-alimentation, l'auto-production de ce dont sa population a besoin. Malheureusement, c'est déjà plus le cas aujourd'hui en Afrique du Nord. En 2050, ce sera 50% de l'eau qui viendra de cette façon-là. Et c'est même beaucoup plus grave que ça, puisque toute l'Asie, le continent asiatique, c'est-à-dire plus de la moitié de l'humanité, en 2050, n'aura pas assez de ressources pour produire la nourriture dont ils ont besoin. Donc le cas de la Tunisie, qui est un pays de 10 millions d'habitants, qui importe 30% de son eau, ce sera un continent de plus de 5 milliards de personnes qui sera obligé de faire venir de l'extérieur la quantité de nourriture dont elle aura besoin pour manger. Donc il faut que les politiques se mettent ensemble pour élaborer des politiques de fixation des prix agricoles, de production, de régulation, de stockage, de façon à ce que cet échange énorme de biens absolument fondamentaux pour l'humanité, qui est la nourriture, soit fait sans connaître ces dents-ci qui sont insupportables, en particulier pour les pays les plus pauvres.
Donc vous voyez, je pense que pour comprendre le monde aujourd'hui, il faut bien faire la part entre ce qui est global, et on voit ces échanges d'eau virtuelle, et puis ce qui reste local. Et moi, ce qui me frappe dans ce tour du monde de l'eau que j'ai fait pendant 2 ans, un peu partout dans le monde, je pensais qu'au fond, c'était l'eau potable qui était la vraie question. Et en fait, c'est le couple eau potable et assainissement, premièrement. Et que la rareté, c'est moins l'eau, comme vous le dites, qui peut circuler, que la terre. Et que pourquoi y a-t-il un tel déficit alimentaire déjà en Asie? C'est qu'ils n'ont pas assez de terre. Ils n'ont pas assez de terres arables, d'où les achats un peu partout des Asiatiques à Madagascar, en Afrique, en Amérique latine. Donc cette question de la terre arable est clé. Et là, on est devant une analyse nécessaire d'un triangle clé avec l'eau, l'énergie et le sol. Et puis, il faut essayer d'avoir une sorte d'équilibre dans la production. Parce qu'avec ce système où on veut pour les habitants des villes toujours plus nombreux, des produits de moins en moins chers. On a de moins en moins de paysans. Que font les paysans qui ne peuvent plus survivre? Ils vont dans les villes et ils veulent, à leur tour, des produits de moins en moins chers. Donc on tue des paysanneries et on garde 5-6 pays qui sont des sortes de fermes du monde, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Canada, avec des cargos qui circulent avec toujours les mêmes produits, donc extrêmement sensibles à des attaques qu'on pourrait imaginer sur telle ou telle espèce, qui se produit toujours quand il y a des manques de biodiversité. Donc il y a ce tissage-là qu'il faut voir entre le global et le local.
Sur le problème de l'eau et son caractéristique locale, j'ai envie de dire que la consommation d'eau doit être adaptée à la disponibilité en eau. Je me souviens, j'ai été un jour sollicité par des petits élèves d'un lycée d'Avignon qui m'avaient demandé de faire une conférence sur l'eau. Et ils m'ont dit, monsieur, est-ce qu'il faut qu'on économise l'eau? Au début, j'étais un peu surpris. J'ai dit, pourquoi? Puis en réfléchissant, Avignon est alimenté en eau indirectement à partir du Rhône. Il coule en étiage à côté d'Avignon 700 mètres cubes seconde d'eau tous les jours. Est-ce que ça rime à quelque chose d'économiser l'eau, sachant que quand on la prend dans le Rhône, elle retourne 10 minutes après être passée par une station d'épuration? Je leur ai dit, écoutez, non, à Avignon, c'est vraiment peut-être pas la peine d'économiser l'eau. Tout ce que vous économisez, c'est un peu d'énergie. En revanche, quand vous allez voir votre grand-mère qui habite à Roussillon, dans un coin où il ne pleut pas, où il n'y a pas de puits, et que vous consommez autant d'eau qu'à Avignon, c'est idiot. Il faut économiser l'eau là où ça a un sens. Donc je pense que les habitudes d'utilisation de l'eau doivent être locales en fonction de la disponibilité. Pourquoi se priver quand il y en a beaucoup? Et pourquoi gaspiller quand il y en a très peu? Je pense qu'il faut gérer ça de façon intelligente.
Mais il y a d'autres questions qui sont intéressantes. Regardez dans votre jardin. Vous décidez de recueillir l'eau. Eh bien, c'est intéressant parce que vous allez moins consommer d'eau par les systèmes des distributeurs traditionnels. Et si tout le monde économise l'eau de cette manière-là, vous aurez de moins en moins de consommation d'eau. Mais ça veut dire que l'eau, alors que vous l'auriez économisée, est devenue, pour ceux qui n'ont pas les possibilités d'économiser, de plus en plus chère. Donc ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des systèmes de récupération chez eux, paieront le plus cher par rapport à vous qui aurez économisé. Donc ce qui veut dire qu'une petite mesure personnelle doit être conçue dans le système un peu global. Et que si vous retenez l'eau et que pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas réinjectée dans les nappes, eh bien vous avez une influence négative sur la disponibilité d'eau globale.
Je voudrais rajouter une chose sur ce que vous avez dit. Celui qui collecte de l'eau dans son jardin à partir de sa toiture, les écosystèmes qui autrefois recevaient cette eau ne la reçoivent plus. Donc il faut à tout moment avoir à l'esprit que l'eau est quelque chose d'important et de savoir que si les actions que l'on va faire pour cela, l'approprier pour nous, êtres humains, met en danger plus ou moins tel ou tel écosystème et qu'il n'y a pas de repas gratuit. On la prend toujours à quelqu'un. Donc il faut voir là où ça prend, ça fait le moins de mal, de supprimer un écoulement naturel qui existait jusqu'ici parce qu'il s'entretenait un certain nombre d'écosystèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'eau, mais il faut avoir conscience qu'on la prend à quelqu'un et minimiser les torts que nous faisons à l'environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes, en modifiant le cycle de l'eau.
C'est pas, on dit, vous savez, l'eau gratuite, mais l'eau, quand quelque chose qui a un coût et qui a des répercussions, ce n'est pas gratuit au sens plein du terme. C'est-à-dire que ça a une conséquence. Ça a une répercussion. Et cette répercussion, cette conséquence, on la comprend que si on la connaît. C'est pour ça que l'eau, il faut la connaître. Et on ne respecte que ce qu'on connaît. Et l'avantage, c'est que c'est tellement passionnant, l'eau, c'est que plus on la connaît, plus on a envie de la connaître.
C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. Deux invités dans ce même plateau, rien que pour eux.